Nous ouvrons notre Bible dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, au chapitre 12, Jean chapitre 12, pour en lire les versets 23 à 26. Jean 12, versets 23 à 26. Jésus donc adresse une réponse à quelques Grecs qui s'étaient tournés vers Philippe, un des disciples, en lui disant « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». C'est le verset 21. Alors Jésus répond à Philippe et à André de manière à ce qu'il répercute le message. Verset 23, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, amen, amen. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui affectionne son âme ou sa vie la perdra. Et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Puis un peu plus loin, dans Jean 14, les trois premiers versets. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Et la manière dont le texte est écrit dans l'original laisse entendre qu'on se jette dans les bras de « croyez vers moi ». Il y a un mouvement. Il y a plusieurs, non, de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous allons vers le premier livre des Rois, au chapitre 17, 1 roi 17, dont nous lisons les 10 premiers versets. 1 roi 17, versets 1 à 10. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, il alla à Sarepta, et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Nous avons donc, ce matin, dans le cadre de notre quatrième étape sur l'itinéraire de ce cours, évoquer ce que nous aurions pu appeler l'épreuve du temps. Vivre dans le temps de Dieu, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressé en ces mots. S'il fallait résumer d'une phrase ce que nous avons partagé ce matin, et cela représentait un certain nombre d'aspects, mais il y a bien d'autres aspects sur cette approche du temps dans les Écritures. Mais si nous devions résumer par une phrase, nous prendrions un extrait du psaume 31 de David, et nous avons évoqué David ce matin en particulier, psaume 31, versets 15 et 16, dans lesquels David affirme concernant son expérience personnelle, et là je le cite plus proche du texte hébreu que de nos traductions, « Mes temps sont entre tes mains. Mes destinées sont dans ta main, mais plus précisément, mes temps sont entre tes mains. Mes heures, mes temps sont entre les mains de mon Dieu. » Alors que je n'essaye pas d'arracher ces temps à la souveraineté du Dieu fidèle. Régler nos montres sur l'heure de Dieu. Apprendre à vivre à l'heure de Dieu, au rythme de Dieu. Apprendre à attendre Dieu avec patience. Apprendre à nous tenir tranquilles dans les moments de grande tension. Pas facile. Mais c'est là un objectif divin pour chacune de nos vies. Apprendre à vivre un jour à la fois. Le jour présent, vécu dans sa plénitude. Ce jour est dans les mains de Dieu. Demain est un autre jour. Je dois apprendre à vivre le moment présent dans la plénitude de la présence de mon Dieu. Un homme de Dieu a écrit ceci, un des secrets d'une vie chrétienne heureuse, c'est de vivre une journée à la fois. Ce sont les grandes périodes qui nous fatiguent. Mais en fait, il n'y a pas de grandes périodes. La vie ne nous arrive pas tout d'un coup. Demain ne nous appartient pas. Mais lorsqu'il viendra, Dieu nous donnera notre pain quotidien et notre force quotidienne. Alors nous aurions pu consacrer l'étude de ce soir à nous pencher sur l'approche du temps dans la vie du Seigneur Jésus. C'est tout un chapitre de ce livre épuisé. Si les minutes m'étaient comptées, comment le Seigneur Jésus, dans sa relation avec le Père, a vécu cette question de la gestion du temps. Et nous avons une clé qui est à notre portée à chacun. Elle est dans l'Évangile selon Jean, où Dieu a pris soin, en inspirant son serviteur, le disciple bien-aimé, devenu apôtre, de manière à ce qu'il utilise un langage limité, d'accès facile, et avec des possibilités d'identifier ce thème de l'approche du temps dans la vie de Jésus. Et il y a une petite expression qui évolue au fil de l'Évangile selon Jean, « Mon temps n'est pas encore venu. Votre temps est là. Le temps vient. L'heure est venue. » Tout au long de l'Évangile selon Jean. Je me souviens de la première fois où, après maintes et maintes lectures de l'Évangile selon Jean, subitement le Seigneur a ouvert mes yeux sur l'importance de cette petite expression, ce qui m'a valu de chercher aussitôt un stylo et de faire des petits cadrans horaires dans la marge de ma Bible tout au long de l'Évangile selon Jean, chaque fois que je voyais qu'il était question de temps. Et ça a été extraordinaire de découvrir la beauté de l'approche du temps dans la vie du Seigneur Jésus. Comment Les uns ont essayé de le faire aller plus vite que le rythme de Dieu. Comment d'autres ont essayé de le freiner par rapport à l'heure de Dieu? Comment il a su résister aux uns et aux autres avec sagesse, vivant très très près de Dieu? Et puis comment, peu à peu, il s'est préparé à cette dernière heure tellement difficile? Vous avez remarqué dans Jean 12, 23, le texte commence de cette manière avec la notion de l'heure. Et après ce passage des versets 23-26, il est question de l'heure. L'heure est venue, je ne veux pas me dérober maintenant à cette entrée dans la phase finale du temps de Dieu concernant mon séjour au milieu des hommes. Alors, je vous dis ceci simplement pour que vous ayez à cœur de parcourir l'Évangile selon Jean, de faire cette étude toute simple vous-même, et vous allez en tirer bien des bénédictions pour votre propre vie. Nous allons donc maintenant vers une deuxième leçon donnée par le torrent de Kérit. L'épreuve du temps, avons-nous dit ce matin, l'épreuve du lieu. Voilà ce que nous voulons approcher ce soir. Vivre dans le temps de Dieu, mais aussi vivre dans le lieu de Dieu. Pourquoi le souligner? Mais tout simplement parce que, manifestement, le Saint-Esprit a conduit le rédacteur inspiré de ce passage à mettre en évidence l'importance des lieux fréquentés par ce prophète de l'Éternel. Remarquez au verset 4 d'un roi 17. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Un peu plus bas, verset 9, la parole de l'Éternel s'adresse à Élie. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là, ou demeure-y, c'est la même chose. Voici, j'y ai ordonné, ou j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir là. Il se leva, il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Là, 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 là. La Bible est verbalement inspirée. Elle n'est pas simplement inspirée dans ses idées. Cette manière de penser a conduit à ce qu'on appelle le libéralisme au sein du protestantisme. Parce que dans le libéralisme, on dit la Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est à chercher et à trouver dans la Bible. Où la Bible devient parole de Dieu pour celui qui la reçoit en fonction d'eux, etc. Et bien sûr, on refuse de reconnaître que chaque mot, dans la mesure où il figure dans les manuscrits qu'on utilise pour notre traduction dans nos langues, n'est-ce pas, vous n'allez pas bâtir un enseignement des Écritures sur une virgule qui ne figure pas dans la ponctuation du texte original. Les témoins de Jéhovah l'ont fait. Ils ont bâti certains de leurs raisonnements sur des ponctuations qui n'existent même pas dans le texte grec. Il faut faire attention. Mais nous pouvons nous assurer ici que ces « là » sont bien « là » et que nous pouvons donc nous appuyer sur ces « là » qui sont un message de la part de Dieu pour son peuple et pour tout lecteur des Écritures. Vivre au diapason de Dieu. Dieu nous donne 4 fois ici le « là » avec son diapason. J'ai été directeur de chorale pendant un certain nombre d'années, j'avais mon petit diapason, hein, avec « là ». Eh bien là, nous avons le diapason de Dieu dans la vie du prophète. Oh, qu'est-ce que cela veut dire plus précisément? C'est que Élie était invité à vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu, ici dans le lieu de Dieu. Dieu avait promis son secours à Élie en deux endroits différents, bien précis. D'abord, le torrent de Kérib, ensuite, dans le territoire de Sidon, à Sarepta. C'était là le centre de sa volonté. Faut-il souligner, nous aurons encore l'occasion de le faire, mais faut-il souligner que ces deux ordres successifs pouvaient fort bien engendrer des résistances chez le prophète Élie. Nous l'avons compris en ce qui concernait son expédition jusque dans cette tranchée pour être nourri par les corbeaux. Cette manière choquante, surprenante, déconcertante, liée à la générosité parfaite de Dieu, pouvait conduire Élie à dire « Ah non, 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 j'ai des principes. » Nous avons vu qu'il faut se méfier de certains de nos principes que nous croyons bibliques. Et nous aurons l'occasion plus tard de voir de la même manière que lorsque l'ordre de Dieu s'adresse à Élie une fois que le torrent est à sec, de se rendre à Sarepta, il avait au moins autant de raisons d'être choqué et de résister à l'ordre de Dieu cette seconde fois qu'il en avait la première. Mais ce qui est beau, encourageant, édifiant, qui est une sorte de défi à relever pour vous et pour moi, c'est que dans les deux situations, malgré tout ce qui pouvait apparaître comme déconcertant par certains aspects révoltants, Élie s'est soumise aussitôt à la volonté de Dieu. L'an dernier, dans ce cours, mais au mois d'août, nous nous sommes penchés durant, je crois, 9 études aussi sur un roi 19. Et c'est intéressant parce que dans un roi 19, vous le savez, le prophète Élie tombe en profonde dépression. Il y a là tous les symptômes d'un état de 36e dessous, très grave. Et quand il entre dans la caverne, après 400 kilomètres de cheminement dans le désert, très lentement d'ailleurs, à 10 kilomètres par jour à peu près, il entend la parole de l'Éternel. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et cette question va lui être répétée une seconde fois, au verset 3, voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Comme si Dieu, à quelque part, lui disait « Écoute, il y a quelque chose qui cloche. Tu es ici, alors que normalement, tu devrais être là. Bon, j'accepte parce que je t'aime. Et en fait, je t'ai même, dans le désert, tracé un chemin pour que tu viennes jusqu'à cet endroit. » Puisque l'ange de l'Éternel qui lui donne la nourriture lui précise qu'il faut qu'il mange car le chemin est trop long pour lui. Donc l'ange de l'Éternel, dans sa préscience, savait quel était l'itinéraire et finalement le lieu où allait arriver Élie, parce que le cœur d'Élie était attiré par ce lieu pour des raisons que je ne vais pas reprendre ce soir, puisqu'elle figure dans les cassettes de l'an dernier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 19, il est dit « Élie partit de là ». Il va réintégrer la plénitude de la volonté de Dieu et il va devenir le formateur de son successeur Élisée. Dans le livre de l'Exode, pour prendre deux ou trois autres exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est encore un grand thème des Écritures. Dans Exode au chapitre 15, nous avons considéré les chapitres 13 et 14. Au chapitre 15, Moïse a conduit Israël sous l'autorité de la nuée céleste en direction du désert de Chour. Ils ont fait trois journées de marche dans le désert. Vous savez que Moïse avait réclamé et réclamé encore à Pharaon de pouvoir faire trois journées de marche dans le désert. pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Et puis quand ils font les trois journées de marche dans le désert, eh bien, ils se trouvent dans une situation difficile, il y a un « mais ». Un « mais » énigmatique de Dieu. Au bout de trois jours de marche, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, voilà le « mais » énigmatique, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. L'eau devint douce. Ce fut là, voilà, être dans le lieu de Dieu. Il fallait passer par Mara. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il lui dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il fallait passer par ce lieu amer. Parce que le peuple devait y recevoir un enseignement extrêmement important concernant la manière dont Dieu s'occupe des siens, dont Dieu désaltère son peuple. C'est d'ailleurs intéressant que c'est dans ces trois domaines, l'eau, le pain et la viande, que la première éducation d'Israël au désert s'est faite. C'est-à-dire dans les domaines des besoins les plus courants de la vie. Et c'est ainsi dans la vie du disciple de Jésus-Christ. C'est dans ces domaines déjà que nous devons apprendre à dépendre de Dieu dans notre vie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, ils font 8 kilomètres de plus. Et faisant 8 kilomètres de plus au-delà de Mara, ils arrivent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers, ils campèrent là, près de l'eau, où ce fut là qu'ils campèrent. Et ça, c'est la beauté du plan de Dieu, concernant ces là, il y a les là des eaux amères nécessaires dans nos vies et il y a les là de ces eaux de sources généreuses dans les oasis de la volonté de Dieu. Et souvent, l'un succède à l'autre. On veut bien accepter l'un, on ne veut pas toujours accepter l'autre. Et puis alors, pour quitter ce texte, vous vous souvenez qu'en introduction tout à l'heure, nous avons lu deux passages de l'Évangile selon Jean, Jean 12, 23, 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là sera mon serviteur. » Là où je suis, là sera mon serviteur. Et si nous sommes là où le Seigneur est, nous n'avons pas à demander à Dieu de nous rejoindre là où nous sommes. C'est là où il est que nous devons le rejoindre. Et dans cette mesure, Jean 14, 2, 3 va plus loin. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le « là » de demain dépend du « là » d'aujourd'hui. Si je suis là où le Seigneur Jésus est maintenant, il m'assure que je serai dans l'éternité là où il sera pendant l'éternité. Voyez donc qu'il y a un message absolument extraordinaire, entièrement construit sur cela. Vivre dans le lieu de Dieu. Et le là de la volonté de Dieu, eh bien cela s'obtient par le téléphone. Moi je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais en tout cas en France, si je n'ai pas de diapason à ma disposition, je décroche le téléphone et la tonalité qui m'est donnée, c'est un là. C'est aussi simple que ça. Donc pour vivre dans le là de la volonté de Dieu, je téléphone. Je vis comme Élie dans l'intimité de Dieu. Je peux comprendre. C'était la base de notre série d'études, n'est-ce pas? De commencer par voir la piété d'Élie. Cet homme qui savait se cacher dans l'intimité de Dieu et se présenter ensuite sur l'ordre de Dieu parce qu'il était capable ensuite de discerner le là de la volonté de Dieu, du lieu dans lequel il devait se rendre. Je te veux là, à la cour d'Akab. Seigneur éternel, tu es vivant, je vais là où tu as préparé mon cœur. Je te veux là, au bord du torrent de Kérit. J'irai là, au bord du torrent de Kérit, me cacher. Je te veux là, à Sarepta. J'irai là, à Sarepta. Vivre comme Élie, dans l'intimité de Dieu. L'Éternel communique ses mystères à ses adorateurs. Il leur révèle son alliance. Psaume 25, 14. Je l'ai pris dans la traduction Tzadok Khan du rabbinat français. Et elle est belle, cette traduction, par rapport au texte original. L'expression les adorateurs ou l'Éternel communique ses mystères. Il y a toute une idée d'intimité. On pourrait traduire l'intimité ou la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et ceux qui le craignent, ce sont ceux qui ont une juste vision de sa personne, qui ont quitté la légèreté quand ils s'aventurent sur le terrain divin. Et mes amis, nous avons terriblement perdu le sens du sacré. Terriblement. C'est sûr qu'il est une sacralisation qui ne glorifie pas Dieu, parce qu'elle est superstitieuse. Mais nous avons souvent bien plus de respect lorsque nous nous approchons d'une haute autorité de ce monde que lorsque nous nous approchons du Dieu suprême qui a créé et institué toutes les autorités. Et trop souvent, nos lieux de réunion sont devenus de véritables halls de garde et salles de pas perdues. On ne sait plus se recueillir, on ne sait plus se préparer dans la prière, on bavarde comme des pies. Et c'est profondément regrettable, parce que Dieu, dans sa parole, a institué quand même des jalons dans l'approche de sa personne. Il est présent. Que je chahute, que je fasse le poirier pendant 10 minutes... ou que je vive un rire de Toronto, pardon de le dire, hein, avec lequel je ne suis pas du tout d'accord pendant un quart d'heure, Dieu est présent. Mais il y a une différence entre sa présence et la sensibilité de sa présence. Dieu déploie sa présence d'une manière toute particulière à notre cœur, à notre oreille intérieure, lorsque nous nous plaçons dans une disposition d'accueil. Et nous l'avons oublié. C'est pour cela que ce verset est beau, n'est-ce pas? L'intimité, la pensée cachée, secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, qui le révèlent, qui sont conscients des dimensions extraordinaires, et je me sens tellement ridicule en le disant, de ce Dieu que les théologiens appellent transcendant, totalement autre, aux antipodes, totalement différent, qui ne se confond pas avec sa création, et en même temps immanent, c'est-à-dire qui s'approche de nous, d'une proximité, n'est-ce pas, qui s'est concrétisée dans le miracle insurpassable de l'incarnation, quand le Seigneur Jésus est venu au milieu des hommes, jusqu'à la mort de la croix. Je le relis, n'est-ce pas? L'intimité, la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et là, je pense à un homme de Dieu du siècle passé dont le message et l'histoire a beaucoup, beaucoup réjoui et travaillé mon cœur, J'ai lu la biographie de cet homme de Dieu à plusieurs reprises. Elle figure là dans la bibliothèque qui contient des petits joyaux qui s'ajoutent d'année en année, Fleuve de lumière. Il s'agit de la biographie de James Frazer, un Anglais brillant mathématicien, pianiste de talent, qui arrive en Chine, décidément la Chine, hein, à l'âge de 22 ans, en 1908. Il a, à vue humaine, devant lui, quand il est encore en Angleterre, un avenir plein de promesses, car il est très brillant. Et pourtant, il est saisi par l'appel de Dieu, et il va être missionnaire parmi les Lisu, dans les montagnes du Yunnan, province du sud-ouest de cet immense pays, et il le sera jusqu'à sa mort en septembre 1938. Pendant ces années, il va connaître d'abord une longue période de vie marquée de rudes épreuves physiques. Il est là au cœur de rudes montagnes sauvages. Il va aussi connaître une lutte spirituelle intense parce que ses chers lissous, qu'il convoite pour Jésus-Christ, sont plongés depuis des siècles dans le culte des démons. Il va être aux prises avec la solitude, avec la fièvre, au milieu de mille dangers, de privations sans nombre. Il va vivre bien des chagrins, des déconvenus, avant de voir ces montagnards se donner à Jésus-Christ par milliers et des églises se constituer les unes après les autres. Un homme qui, pendant les premières années de son ministère, en Chine sera en proie à de terribles phases de découragement, jusqu'à ce qu'il s'entoure d'une équipe de prière constituée par sa maman en Angleterre, à laquelle il va envoyer en permanence une richesse d'informations très précises pour être soutenu à l'arrière. Oh, quelle histoire! Très réaliste! Non pas la gloire d'un homme de Dieu parfait, mais un homme fragile, de la même nature que nous, mais qui s'appuie sur le Seigneur et qui va développer une vie de prière intense et d'intimité avec Dieu, qui va lui faire dire ceci, et c'est là que nous voulions en venir. Écoutez-le. Consacrons-nous un temps important à nous tenir à l'écoute de Dieu, pour connaître sa volonté avant d'essayer de nous embarquer dans ses promesses. Dieu agit selon ce principe, et il nous le dit clairement en 1 Jean 5:14-15, hein, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et nous écoutons, nous sommes assurés d'avoir la chose que nous avons demandée. Je ne puis m'empêcher de penser que c'est une des causes, sans être la seule, du non-exaucement de temps de prière. Jacques 4, verset 3, qui dit « Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, donc vous ne recevez pas », Jacques 4, verset 3, est d'une application étendue, et il importe de sonder nos cœurs à sa lumière. L'Écriture et l'expérience s'accordent certainement à montrer que ceux qui vivent le plus près de Dieu sont ceux qui ont le plus de chances de connaître sa volonté. C'est aussi simple que ça. Autre citation. La merveilleuse promesse de Jean 15, 7, vous allez la trouver plus loin, est précédée d'un « si » lourde conséquence. Je me demande si l'on ne pourrait pas paraphraser ce verset ainsi. « Si vous ne demeurez pas en moi et que mes paroles ne demeurent pas en vous, ne demandez pas tout ce que vous voudrez, car cela ne vous sera pas accordé. » Peut-être même que si nous nous examinions plus à fond devant Dieu, nous nous apercevrions dans certains cas que nous avons mené notre vie tout entière en désaccord avec sa volonté. Quel droit aurait-on dans un tel cas d'attendre un exaucement à ses prières? Or, n'est-ce pas ce qui se produit souvent à propos du, entre guillemets, « bon travail chrétien » Recevez votre travail de Dieu est un commandement fort nécessaire. Combien de responsables chrétiens font leur propre projet, ils travaillent d'arrache-pied pour demander ensuite ardemment à Dieu sa bénédiction. Combien il vaut mieux, comme le pensait Hudson Taylor, nous mettre à l'écoute de Dieu pour connaître ses projets avant de nous lancer. Beaucoup de travail chrétien semble marqué du sceau charnel. Il est peut-être bon, il rencontre peut-être du succès en apparence, mais il y manque la présence glorieuse de Dieu. Nous devons donc, et c'est une image, vibrer au diapason de Dieu si nous voulons être capables de distinguer sa volonté de la nôtre. Vibrer au diapason de Dieu. Quand vous utilisez le diapason, n'est-ce pas, tapez, vous pouvez même le poser, et dans la vibration, vous entendez la tonalité. N'est-ce pas le « là » ? Nous devons vibrer au diapason de Dieu si nous voulons être capables de distinguer sa volonté de la nôtre. Et cela me rappelle l'histoire d'une station de radio dans une région des USA, dans l'ouest des États-Unis. Station de radio qui reçoit un jour une lettre d'un berger qui vivait sur un ranch isolé dans cette région. Et la station était assez étonnée parce qu'elle n'avait jamais reçu une telle requête. L'auditeur disait « Pourriez-vous me donner le « là » sur le piano de votre studio ?» Et il ajoutait, pour être bien compris et accepté dans sa requête, « Il n'y a pas de piano près de chez moi. Et le seul réconfort que j'ai dans la vie, c'est mon violon. Et en ce moment, il est désaccordé. Pourriez-vous me donner un « là » pour que je puisse l'accorder à nouveau ?» Seigneur, j'ai besoin du « là ». Je viens à toi pour accorder le violon de ma vie qui se désaccorde si facilement. Et vous savez que tous les instruments à cordes ont ce problème. Une de nos filles joue du violon et une autre du piano, et on sait que il faut réaccorder, et pour le violon, combien c'est délicat, il faut y reprendre, etc. Donc notre vie est comme ça, en permanence. J'ai besoin de retrouver le « là ». Cela signifie une vie de prière régulière, nourrie de la parole de Dieu. Adolphe Monod, un des hommes de Dieu que Dieu a suscité en France, qui a été à l'origine des églises libres, comme l'on dit, a écrit ceci: l'écriture sainte, la parole de Dieu, est le ciel parlé. La prière, selon l'écriture, est le ciel reçu au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Sans la parole, la prière est nulle, n'ayant pas d'aliment. Sans la prière, la parole est impuissante et ne pénètre pas dans le cœur. Deux sœurs indissociables, la prière et la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas vous abreuver longuement de tout ce qui concerne le discernement de la volonté de Dieu. Il y a tout un séminaire sur ce thème, mais qui nous prendrait une semaine aussi. Mais par contre, je peux simplement vous en souligner les jalons, ces petites lumières qui doivent être alignées de manière à ne plus en être qu'une seule pour être assuré de la pensée de Dieu. Un cœur purifié d'une mauvaise conscience, Ésaïe 58, 1 et 2, et 59, 1 et 2. La consécration de notre personne tout entière, Romains 12, 1 et 2. Offrez vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte conforme à ce que la raison demande. Et laissez-vous, ne vous conformez pas, ne vous coulez pas dans le moule de Monsieur Tout-le-Monde, mais laissez-vous métamorphoser en permanence par le renouvellement de votre mentalité afin que vous discerniez la volonté de Dieu, laquelle est bonne, agréable et parfaite, même lorsqu'elle n'apparaît pas toujours ainsi à nos yeux. La fin, c'est moi qui l'ajoute. Mais c'est évident aussi. Troisièmement, utilisation de tout toutes nos facultés soumises au Saint-Esprit, pas de passivité, n'est-ce pas? Dans le psaume 32, au verset 8 et 9, après cette merveilleuse promesse, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Vous connaissez cette belle promesse de ce psaume 32 qui est un psaume d'humiliation de David, n'est-ce pas? Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet entêté. Nous ne sommes pas des animaux. Dieu nous a doués de capacité et de sensibilité. Nous ne vivons pas d'instinct. Et nous devons mettre toutes nos capacités en action dans le discernement de la volonté de Dieu. Un cœur imprégné en permanence de la parole de Dieu. Psaume 40, versets 8 et 9, et chaque fois, ces versets associent le discernement de la volonté de Dieu à cette condition. Les conseils et les remarques de croyants mûrs spirituellement, c'est-à-dire de croyants dont nous savons qu'ils ne vont pas nous caresser dans le sens de notre poil. Un cœur droit, prêt à se soumettre à la volonté de Dieu révélée. Et ça, c'est notre plus grand problème. C'est que nous cherchons la volonté de Dieu, mais nous l'avons soi-disant déjà trouvée. Seigneur, est-ce que je peux aller en Israël cet été? J'ai pris le billet. Sous-entendu, est-ce que tu veux bien donner ta bénédiction sur le projet que j'ai fait? Nous manquons si facilement de droiture dans ce domaine. Connaissez l'histoire du devin Balaam, prophète malgré lui, qui fait preuve d'une piété apparente extraordinaire lorsque les émissaires de Balak, roi de Moab, viennent vers lui. Nombre 22. En lui disant, écoute, nous te demandons de maudire ce peuple. Et nous savons que tu es connu pour tes capacités. Et voilà, me dit, eh bien, oui, je vais demander à l'Éternel. Il dit qu'en réalité, c'est Dieu qui vient au-devant de lui pendant la nuit. Il dit, tu n'iras pas. Tu n'iras pas parce que ce peuple est béni. Et le matin, avec lui aussi des grosses poches sous les yeux parce qu'il avait envie d'y aller, il est obligé de renvoyer les émissaires en leur disant, eh bien non, Dieu a refusé. Il ne donne pas la raison. C'est le problème de la communication quand on n'est pas droit de cœur. On ne dit pas toute la vérité. Par dépit, simplement, il est abrupt, lapidaire. Il ne peut pas. Dieu ne veut pas. Alors comme les émissaires ont détecté chez lui une vanité évidente qui cache peut-être une certaine cupidité, quand il s'exprime auprès du roi Balak, celui-ci voit très bien la faille et puis il envoie des émissaires de plus haut degré dans l'échelle, n'est-ce pas, avec un chéquier plus épais pour récompenser. Et donc l'équipe se présente à nouveau. Et notre ami Balaam fait à nouveau l'homme très pieux. « Oh, mais je ne peux rien faire, il faut que je reconsulte Dieu. » Et il reconsulte Dieu. Dieu vient à lui pendant la nuit et Dieu lui dit, vas-y. Vas-y. Et à peine a-t-il fait démarrer sa deux chevaux que les problèmes commencent. Il dit dans Nombre 22 que c'est Dieu qui est derrière les problèmes. Dieu se met en colère parce qu'il était parti. Contradiction. Comment Dieu lui a dit de partir et puis une fois qu'il part, il se met en colère contre lui. Et pourquoi? Mais vous savez, si nous ne sommes pas droits, Dieu lui avait dit non. Ce peuple est béni, inutile d'y aller. Pourquoi redemander une deuxième fois quand Dieu vous dit non? Ben, si vous cassez les pieds à l'Éternel, c'est comme parfois quand des enfants cassent les pieds à leurs parents. Les parents ont dit non, Et si les parents sont de bons pédagogues et qu'il n'y a pas de risque grave, tu insistes. Vas-y. Entre nous, soit dit, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas ? Vas-y. Et puis les larmes commencent à couler un petit peu plus tard. Mais vous contrôlez la situation parce que vous aimez votre enfant. Dieu fait la même chose. Il y avait la cupidité qui était là, tapis au fond du cœur de Balaam. Tu as dit, si tu veux vraiment y aller, vas-y. Et on croit parfois faire la volonté de Dieu. Mais si on commence à chercher dans nos motivations, dans tous les mécanismes intérieurs, on va se rendre compte qu'en réalité, on a forcé la main de Dieu. Alors le résultat, c'est qu'il y a eu 3 pannes sur la 2 chevaux de M. Balaam. D'abord, on ne sait pas comment, elle est partie dans un champ, elle s'est enlisée dans un champ, elle a quitté le chemin. Alors il s'est sorti de la voiture, il a tambouriné sur le capot, il a dit « Mais jamais tu ne m'as fait ça !» Il a fallu aller chercher la dépanneuse, remettre la voiture sur la route, il est reparti en colère, et un peu plus loin, il part sur le côté, tout une aile qui était raflée le long d'un mur. Alors il sort de la voiture, il recommence à tempêter, malheureux au possible, il faut aller chez le garagiste, la facture est lourde, on prend la voiture, et puis et finalement c'est même le plancher de la voiture qui devait être rudement rouillé qui tombe à terre. Voilà la voiture plantée au milieu du chemin. Alors Balaam, il n'en peut plus. Il sort, il est dans une colère à 3 doigts de l'infarctus, puis à 2, puis à 1. Et en discutant avec sa voiture, comme on le fait parfois, n'est-ce pas, voilà que sa voiture lui répond. Mais enfin, patron, tu la connais ta bagnole? Est-ce que j'ai l'habitude de te faire 3 pannes une derrière l'autre comme ça? Ça vous est jamais arrivé? Ah, il m'est arrivé que notre voiture me parle. Ouais. Pour me dire, Maurice, t'as pris la route, c'est pas mon plan. Et vous savez qu'heureusement que dans sa souveraineté, dans sa grâce, l'ange de l'Éternel est arrivé. Le chemin sur lequel tu es est un chemin de mort. Et Balaam a dû renoncer à ses pratiques occultes. Il était devin, pas un prophète. Prophète malgré lui. Il est appelé prophète dans le Nouveau Testament. Et c'est un devin. Le vocabulaire hébreu oblige à ne voir qu'un devin. Utilisé dans la souveraineté de Dieu. Mais les enchantements, l'occultisme ne peut rien contre Israël, dira-t-il là-bas. Mais derrière l'histoire de Balaam se cache tous nos égarements liés à nos mauvaises motivations qui nous conduisent à faire le bras de fer avec Dieu, n'est-ce pas ? Jusqu'à ce que ce soit lui qui volontairement cède pour nous apprendre que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Et que quand on s'embarque à vouloir forcer la main de Dieu, on y laisse des plumes. Et ça peut aller très. Alors vous trouverez des histoires du même genre dans Jérémie 42, 43, vous avez plusieurs textes qui racontent des histoires qui traitent de la même veine. Et enfin, un esprit paisible et patient dans la recherche de la volonté de Dieu. C'est-à-dire le bon sens sanctifié heure après heure, Dieu ne veut pas de passivité. Je me lève le matin, je rencontre le Seigneur. Et animé par son esprit, rempli de son esprit, je sais qu'il va me guider de manière à ce que j'utilise mon bon sens sanctifié, les facultés qu'il m'a données, de manière à ce que je n'hésite pas pendant une heure à savoir si je dois acheter un morceau de savon pour me laver. Si je sens mauvais, bien entendu, et même avant de sentir mauvais, je vais acheter du savon. Parce que Dieu m'a donné un bon sens et il veut me conduire à utiliser ce bon sens sanctifié pour ma vie de tous les jours, et m'éviter de vivre cette passivité dont l'ennemi aime s'emparer. Et puis alors, pour les grandes décisions, la patience, qui sait attendre le moment. Et là, Nous l'avons déjà dit. Que de problèmes avec nos impatiences, nos précipitations. Voilà donc un thème très très important concernant le discernement de la volonté de Dieu. Mais allons plus loin. Être là où Dieu nous veut, c'est une force dans l'épreuve. Dans le fond, ce qui était très important pour Élie au bord du torrent de Kérit, puis plus tard, à Sarepta, c'était de pouvoir dire « Je suis près du torrent de Kérit sur l'ordre de Dieu ». Le problème du torrent n'est pas mon problème. Le problème du torrent, c'est l'affaire de Dieu qui m'a placé là. Et je peux comprendre qu'Élie ait été soutenu dans cette épreuve du torrent qui s'asséchait progressivement. Parce que jour après jour, malgré l'évidence visible, n'est-ce pas, de la baisse du niveau du torrent, il pouvait continuellement dire « Seigneur, je t'ai obéi, tu m'as amené là, le problème du torrent n'est pas mon problème, c'est ton affaire. C'est toi qui contrôles. » J'ai noté ici, dans mon manuscrit, quelques références personnelles. Oh, vous savez, j'ai souvent été pris en faute dans ce domaine. Mais nous apprenons. Et je pense à une des expériences les plus difficiles vécues dans mon ministère, m'amenant à beaucoup voyager. Parce que voyager, ça sous-entend aussi la nécessité d'être dans la volonté de Dieu, dans la réponse aux invitations, dans l'organisation du voyage et dans toutes sortes de choix. Et dans le programme d'enseignement qui m'incombe année après année, je suis assez souvent maintenant au Canada, au Québec, et deux voyages sont programmés pour l'année prochaine d'ailleurs, dans ce pays, et j'y ai vécu. Chaque fois que je retourne là-bas, j'ai un souvenir ému dans mon cœur. C'était le 13 mars 1988. C'était un dimanche matin. Je venais de terminer une semaine de conférences bibliques dans une grande église de Sherbrooke, une des villes universitaires du sud du Québec. Et je m'apprêtais à partir vers la ville de Québec pour un programme de rencontre. Et ce dimanche matin, je préparais la journée dans la présence du Seigneur. Et je faisais donc ce cœur à cœur avec le Seigneur dans le chapitre 10 du livre de Daniel, que je parcourais chapitre après chapitre. Et ce jour-là, c'était le chapitre 10. Et je suis arrivé dans le chapitre 10, au verset 19, où un personnage céleste, qui peut être une christophanie, c'est-à-dire une révélation du Fils de Dieu, en quelque sorte, dans l'Ancienne Alliance, s'adresse à Daniel dans des circonstances fort difficiles et lui dit « Ne crains rien, Daniel 10, 19, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage !» Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et cette parole m'a atteint, je dirais de plein fouet. Ça a été comme si le Seigneur était là, dans la pièce, à mes côtés, en train de me parler de manière audible. Si bien que je me suis arrêté dans la méditation pour essayer de comprendre et j'ai interrogé Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ce verset 19 jaillit-il de cette manière du texte? Pourquoi est-il si vivant? Mais qu'est-ce Qu'est-ce que tu es en train de me dire que je ne comprends pas ? Et juste à ce moment-là, on frappe à la porte. J'étais logé à l'Institut biblique Bethel de Sherbrooke. Les directeurs, d'ailleurs, ont habité ici. Le directeur a habité en Suisse pendant une quinzaine d'années. Homer Payne, qui est maintenant aux États-Unis en retraite. Et Homer Payne, donc le directeur à cette époque, son épouse, vient me voir et me dit, écoutez, votre épouse vous demande au téléphone. Donc je vais dans la pièce, je prends le téléphone. Et mon épouse était en larmes. Et entre deux sanglots, elle a essayé de m'expliquer que qu'un de nos enfants était en réanimation, entre la vie et la mort, et que les médecins ne pouvaient absolument pas se prononcer. Est-ce que ce serait 24 heures? Moi, ils ne savaient pas. Ah, mes amis, combien j'ai béni Dieu pour ce verset. Parce que ce verset m'a accompagné tout au long des 24 heures et plus qui en suivent. C'était un dimanche. À cette époque, 13 mars, au Québec, vous savez, il fait encore bien froid, il y a encore de la neige. Nous n'arrivions même pas à atteindre l'aéroport, qui était assez loin à l'époque, changé de lieu depuis. Et nous avons donc dû nous rendre à l'aéroport pour voir sur place si un avion s'envolait vers la France. Il y avait un avion pour la France, mais alors avec une liste d'attente démesurée. Et les responsables à l'enregistrement m'ont dit, écoutez, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est d'attendre. Jusqu'à la dernière minute. Nous allons voir, est-ce que peut-être une solution va être trouvée. Et pendant des heures, je m'accrochais à cette parole que Dieu m'avait donnée ce matin. C'était ma bouée de sauvetage et de réconfort. Et finalement, là aussi, très peu de temps avant l'heure prévue de l'embarquement, j'entends ma voix au haut-parleur. Et on me trouve une place. Et puis ensuite, en salle d'embarquement, le haut-parleur fonctionne à nouveau pour dire que l'avion avait été pris dans une tempête de neige depuis Toronto, qu'il y aurait plusieurs heures de retard. Alors, rebelote ! Daniel 10:10. Et tout au long de cette nuit, de ce voyage, ah, le Seigneur était là. Jusqu'à Roissy, Charles de Gaulle, où en sortant, en entrant dans le hall, j'ai vu une amie qui venait me chercher, qui m'a fait le doigt levé, n'est-ce pas ? Notre enfant était encore en vie. Et donc, nous sommes partis ventre à terre, nous avons fait les 120 kilomètres et j'ai pu retrouver notre enfant, Dieu finalement, la garder en vie. Et quelle grâce! Quelle grâce! Ah, mes amis, vivre dans l'intimité de Dieu. Vous savez, quand on dit le dimanche matin, oh, il y aura le culte tout à l'heure, c'est une journée tellement pieuse qu'on peut bien se passer de cœur à cœur avec Dieu, puisque tout à l'heure on aura le culte, on va vivre toute la journée avec des réunions. Non, non, mes amis. Rien ne saurait remplacer ma rencontre avec lui, même le dimanche matin. Et je bénis Dieu de ce qu'il m'ait fait la grâce de me mettre dans sa présence. Parce que s'il ne m'avait pas mis dans sa présence, eh bien j'aurais manqué ce verset 19 qu'il voulait me donner. Mon voyage aurait été mille fois plus difficile. J'aurais été attaqué de toutes parts. L'ennemi en aurait profité. Mais là, je savais que j'étais dans la volonté de Dieu dans ce voyage. Et de surcroît, je pouvais m'appuyer sur le Dieu vivant qui sait ce dont tout à l'heure sera fait. Et qui donc, dans sa bonté, veut nous équiper aussi. Et je suis persuadé que parfois nous sommes désarçonnés dans nos vies parce que nous n'avons pas offert à notre Dieu la possibilité de nous préparer à l'événement qui va surgir dans la journée. Je me souviendrai toute ma vie des premiers mois de cette année. Demandez à mon épouse. Les premiers mois de cette année ont été des mois extrêmement difficiles. Nous avions, entre début janvier Et fin avril, deux voyages outre-mer. Une partie du mois de janvier en Afrique, au Sénégal, et la plus grande partie du mois de mai en Martinique, aux Antilles. La veille du départ pour le Sénégal, dans ma méditation personnelle, Dieu a parlé à mon cœur d'une manière toute particulière en me donnant Deutéronome 1, verset 30-31. C'était dans le courant de mon étude, je n'ai pas pointé dans la Bible, n'est-ce pas, comme certains le font parfois, pour recevoir une pensée de Dieu, alors ça peut donner des résultats très très spéciaux et catastrophiques. Mais là, Dieu a dit à mon cœur, et c'est marqué en rouge dans ma Bible, 2 janvier 2001, « L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait, etc. Au désert, tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme, porte son fils pendant toute la durée que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. » Et dans notre cœur, nous avions le sentiment que notre séjour, c'était le quatrième séjour successif d'année en année au Sénégal. Nous avons un programme annuel de rencontres. Et toutes les semaines qui ont précédé, Dieu préparait notre cœur à un séjour plus difficile que les précédents. Nous sommes arrivés au Sénégal, la veille du premier grand séminaire d'une semaine à Dakar. L'ami missionnaire qui nous conduisait en voiture a emprunté une piste très sablonneuse, n'a pas vu un très fort dénivelé. La voiture a fait un énorme bond et d'un instant à l'autre, j'ai démarré une lombalgie. Et les lombalgies m'ont valu dans le passé, notamment une, 3 semaines à plat, sans bouger, jusqu'à ce qu'on puisse commencer à bouger un tout petit peu. Et j'ai dit, mais Seigneur, demain je commence. Et nous savions que nous étions dans le plan de Dieu, Dieu nous avait préparé. Mais je ne peux pas entrer dans les détails. Dieu a organisé les circonstances au niveau des soins, dans toutes sortes de domaines, de telle manière que le lendemain soir, en grimaçant, je pouvais donner ma première étude et faire toute la série des études en allant de mieux en mieux, Dieu intervenant de manière fantastique. Mais nous nous souvenions de Deutéronome chapitre 1er. Et à peine avais-je démarré la lombalgie qu'il y avait un autre orage, terrible sous notre regard, pas orage physique, orage dans la vie de personnes, je n'en dis pas plus, que nous avons dû aider dans une grande tension pendant tout notre séjour. Et une fois que nous arrivions pratiquement au bout de notre séjour, c'est mon épouse qui a pris le relais. En allant sur une île à proximité de Dakar, j'ai subitement retrouvé mon épouse complètement prostrée dans un fossé où elle venait d'être à demi assommée contre un mur du fossé alors qu'elle a subi 2 interventions ces dernières années et le sang giclait. Et là aussi, de manière extraordinaire, nous étions à 1 minute du seul dispensaire sur cette île. Nous avons pu y aller très rapidement. C'était l'heure la plus chaude de la journée. Et il y avait là une sœur catholique qui s'est occupée avec un amour de mon épouse et qui a reçu en cadeau un magnifique calendrier de la bonne semence qu'elle a serré contre son cœur. Il fallait voir. Et nous étions déjà consolés, réconfortés, rien qu'en voyant l'intervention tellement belle de Dieu et la joie de cette femme de recevoir ce cadeau. Nous croyons que Dieu a dû se servir de ce calendrier à quelque part dans la vie de cette femme. Nous rentrons à la maison. Au mois de février, mon épouse entre à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. Elle sort de l'hôpital. Mi-mars, elle démarre un problème de pyélonéphrite. Infraction rénale extrêmement grave, consécutif à l'intervention un mois plus tôt, qui a été à 2 doigts de la septicémie. Au moment où mon épouse tombe malade, je tombe malade exactement au même moment qu'elle. Si bien que je dois renoncer à un week-end de conférence. Mais le médecin me dit, notre médecin me dit, oh, vous savez, c'est bien, c'est formidable que vous soyez malade en même temps que votre femme. Parce que si vous n'étiez pas malade et auprès d'elle, nous aurions dû appeler le SAMU pour la transporter à l'hôpital. Mais puisque vous êtes là, vous allez vous soigner tous les deux réciproquement. Mais mes amis, ça s'est passé entre le 12 et le 20, 25 mars, le 1er avril, et ce n'est pas une farce, nous devions monter dans l'avion pour 3 semaines de conférences et de séminaires, et c'était peut-être un de mes 14 déplacements en Martinique ces dernières années les plus chargés qui soient. Et là encore, nous sommes partis malades. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir remplir complètement notre programme. Ma femme avait un programme chargé de séminaires de formation de moniteurs, monitrices, une série de réunions d'enfants. J'avais moi-même un énorme programme dans 4 églises de la Martinique. Ce ne sont pas de petites églises. Eh bien, mes amis, nous sommes rentrés plus de 3 semaines plus tard en bien meilleure santé qu'au moment où nous sommes partis. Et continuellement, pendant ces 3 semaines, Dieu me redisait un verset de sa parole. Leur force augmente pendant la marche. Psaume 84. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mais il est important d'être dans le lieu de Dieu. Être dans le lieu de Dieu. La volonté de Dieu ne vous conduira jamais là où sa grâce ne peut vous garder. La parole n'est pas de moi, mais je la prends pour moi. La volonté de Dieu ne vous conduira jamais là où sa grâce ne peut vous garder. Un homme de Dieu qui a eu un magnifique ministère en Afrique du Sud, Andrew Murray, dont nous avons le livre délicieux, Le voile déchiré, qui est un commentaire libre de l'Épître aux Hébreux. Andrew Murray a évoqué les 4 ancres, A-N-C-R-E-S, indispensables dans la tempête de l'épreuve, s'appuyant sur Actes 27, 29, ils jetèrent 4 ancres de la poupe. Cette tempête qui a secoué rudement le bateau qui transportait le prisonnier Paul vers Rome pour y comparaître devant César. Quelles sont ces 4 ancres? Premièrement, dites, c'est lui qui m'a amené où je suis. C'est sa volonté que je passe par cette épreuve. Je fonde sur ce fait ma paix intérieure. Ça, c'est la première ancre. C'est lui qui m'a amené où je suis. Et c'est ce que Paul pouvait dire, n'est-ce pas? Quand il était sur ce bateau secoué comme une vulgaire petite coquille de noix sur une mer démontée, Dieu lui disait, ne crains point, Paul, tu sais très bien que ce voyage est dans mon plan. Il faut que tu comparaisses devant César. Et je t'ai donné ce bateau et tout l'équipage et tout le personnel, tous ceux qui sont sur bateau, ce bateau, seront sains et saufs parce que je suis avec toi. Il était là dans la volonté de Dieu. Deuxièmement, il m'y gardera dans son amour et me donnera la grâce d'agir comme le doit son enfant. Troisièmement, il transformera cette épreuve en bénédiction et m'apprendra les leçons qu'il jugera nécessaires. Quatrièmement, au temps favorable fixé par lui, il m'en fera sortir de la manière dont il l'a prévu. Et Andrew Murray, de réunir ces 4 ancres dans cette déclaration, premièrement, je suis ici par la volonté de Dieu. Deuxièmement, je suis sous sa garde. Troisièmement, je suis à son école. Quatrièmement, j'y resterai le temps qu'il aura fixé. Nous avons eu une après-midi chinoise. Vous savez combien de nombreux disciples de Jésus-Christ ont souffert et continuent à souffrir du régime chinois actuellement. Et j'ai sous les yeux le témoignage d'un pasteur chinois qui a passé 18 années de prison en prison pour sa foi. Et c'est en 1991 que ce cher frère a rendu ce témoignage remarquable. Écoutez. Les autorités m'avaient affecté à la vidange de la fosse d'aisance. Elles n'imaginent pas combien j'ai apprécié de travailler là pendant ces années. C'était une fosse de 2 mètres de côté, remplie d'excréments humains. Je devais descendre dans cette masse nauséabonde et écoper, vous voyez, comme on fait dans un bateau qui se remplit et que l'on veut vider pour ne pas se noyer, hein, écoper. Sans arrêt. Pourquoi ai-je pu me réjouir d'accomplir cette corvée? Dans le camp de travail, les prisonniers étaient normalement étroitement surveillés par des gardes. Mais l'odeur du puisard maintenait les gardes et les prisonniers à bonne distance. Je travaillais donc seul, ce qui me permettait de prier le Seigneur à haute voix quand j'en avais besoin. Je pouvais réciter des passages entiers de l'Écriture, ainsi que tous les psaumes dont je me souvenais, sans que personne ne puisse protester. Je pouvais chanter à voix haute tous les cantiques qui me revenaient à la mémoire. En chantant dans la fosse d'aisance, je faisais l'expérience de la proximité du Seigneur. Cette fosse devint mon jardin privé où je rencontrai le Seigneur. Là, dans une fosse d'aisance, au centre de la volonté de Dieu, il n'y a que les disciples de Jésus-Christ qui peuvent expérimenter cela, n'est-ce pas? Alors je me dois de terminer. Et je terminerai ce soir simplement en posant une question. Et si je ne suis pas dans le « là » de Dieu, si j'ai joué une autre note, si j'ai été infidèle, si je suis sorti de sa volonté, si j'ai commencé à utiliser les coups de pouce charnels, le système D, comme Descartes, suis-je irrémédiablement condamné à graviter dans l'orbite glacée de mon infidèle? Dieu demeure immuablement fidèle. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2:13. Et là, pour moi, resplendit un des plus beaux versets des Écritures, prononcé par l'Éternel sur la montagne de la loi, le Sinaï. Et on a si facilement opposé la montagne de la loi à la grâce. Et certes, l'Épître aux Hébreux montre le côté profondément impressionnant du déploiement de la gloire de Dieu sur le Sinaï. Et des bouleversements, des craintes profondes qu'elle engendrait dans le cœur de Moïse lui-même. Mais souvenons-nous tout de même que, tout d'abord, Dieu a dû protéger Moïse. Quand Moïse lui a dit, « Oh, fais-moi voir ta gloire. Je ne peux pas te montrer ma gloire. Nul ne peut me voir et vivre. Mais néanmoins, je vais répondre quand même à ta prière. Je vais te montrer la gloire de ma, la beauté de ma générosité, de ma loyauté, de mon amour inconditionnel, de ma solidarité, de mes compassions. C'est le reset dont nous avons parlé hier. Et vous savez que Dieu Dieu a accordé une cachette à Moïse. Moïse avait besoin d'une cachette parce qu'il n'aurait pas pu supporter la gloire de la grâce. Vous vous rendez compte? La grâce de Dieu, la générosité de Dieu, l'amour de Dieu est tellement intense qu'il est aussi insupportable dans sa plénitude à l'humain que je suis. Alors non seulement Dieu a installé Moïse dans le creux du rocher, mais de surcroît, il a enfermé dans une coquille en mettant sa main sur lui et en se présentant par derrière, nous dit le texte. Toutes sortes de termes de la fin d'Exode 33 montrant toutes les précautions que Dieu a dû prendre dans son désir de révéler quelque chose de la beauté de sa personne à son serviteur. Et puis quand il passe, descendant dans une nuée, qu'il se tient auprès de lui, il proclame le nom de l'Éternel, Yahvé. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. » Ça commence par là. « Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. » Alors là, je vais traduire autrement. André Chouraki, qui est un de ces révolutionnaires de la langue française, juif, qui nous a laissé des écrits très intéressants, parfois très difficiles. On ne peut pas accepter toute la pensée de Chouraki pour toutes sortes de raisons d'ordre théologique et même dans son langage. Mais alors là, là, mes amis, abondant en chérissement et en vérité. Le terme chesed, il va le rendre par cette expression chérissement. Le chérissement de Dieu, la manière dont Dieu nous chérit. Et ce mot, tenez-vous bien, dans cette révélation de Dieu, revient deux fois dans sa déclaration ici. Lent à la colère, riche ou abondant en chérissement et en fidélité ou en vérité. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Qui conserve son chérissement, son amour, c'est le même terme. Qui conserve son recette jusqu'à 1000 générations. 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché. Ici, le fait de rater, manquer la cible. C'est le mot ici. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais quel message! Quel message! Dieu est riche en bonté, en recette, dans cet amour inconditionnel. Et il est riche en fidélité, mais ici nous n'avons pas le terme que nous avons vu ensemble, Emunah, qui a donné Amen. Mais un terme qui passe par de la même racine, qui appartient aussi à la famille du mot Amen, mais c'est Emet. Vous voyez, il y a le M dedans, n'est-ce pas ? Et qui peut se traduire aussi bien par vérité, c'est le sens fondamental. Vérité, mais qui peut être aussi rendu par fidélité. Et c'est André Chouraki qui va le dire, n'est-ce pas? Le terme implique solidité, stabilité, constance, identité à soi-même, ténacité dans les décisions. Celui qui a cette qualité fortement réelle, en même temps que parfaitement fidèle à toute promesse. Fidélité est une traduction fréquente de ce mot admirable, et il ajoute, c'est intéressant, les rabbis font remarquer qu'il est écrit en utilisant la première lettre de l'alphabet hébreu, la lettre médiane du milieu de l'alphabet hébreu, et la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Il embrasse ainsi la totalité de l'écrit. Emet, Emunah, Chesed. Trois mots clés pour définir la beauté du caractère de Dieu tout au long de l'Ancien Testament. Et tous les trois avec cette pensée de la solidité, de l'amour de Dieu, sa stabilité, son immuabilité, sa ténacité dans ses compassions. Combien cela est beau. Dieu est fidèle. Fidèle Père pour ne jamais abandonner son enfant. Jean 10. Mes brebis, nul ne les ravira de ma main. Et nul ne saurait les ravir de la main de mon Père. Fidèle Père pour nous reprendre et nous corriger avec amour. Hébreux 12, versets 5 à 11.